Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako, vous êtes à l'écoute de Studio Tamani. Voici les titres de ce journal. Le président du parti Sadi Oumar Mariko est de nouveau dans les viscères de la justice malienne. Hier, des hommes armés auraient fait irruption à son domicile, mais il n'y était pas. Il aurait accusé l'armée d'assassiner des civils à Moura. Chaleur et ramadan, si certains établissements scolaires ont allégé les horaires de cours, dans certaines écoles, les programmes restent les mêmes. À Tombouctou, les hôpitaux débordent de monde en cette période de forte chaleur. Ces patients sont principalement les personnes âgées et les enfants. À cela s'ajoutent les délestages. Les détails de cette, les détails dans un instant avec Assetou Kanté, mise en onde Nouhom Djiri. Le président du parti Sadi Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, Dr Oumar Mariko, aurait échappé à une tentative d'enlèvement ce lundi. L'information est rapportée par son parti qui affirme qu'on en voulait à Dr Mariko à cause de sa récente sortie lors d'un panel. L'homme politique aurait accusé l'armée d'assassiner des civils à Moura dans la région de Mopti. Poursuivi dans une autre affaire d'injure contre le premier ministre, Oumar Mariko a bénéficié d'une liberté provisoire il y a quelques semaines. Mariam Koulibaly pour plus de précisions.
Le parti Sadi dénonce une irruption d'hommes lourdement armés hier au domicile de son président Dr Oumar Mariko. Mais ce dernier n'y était pas. Il serait à nouveau poursuivi pour avoir accusé, lors d'un panel, l'armée d'assassiner des civils à Moura. Aucune communication officielle des autorités n'est à ce stade faite sur cette affaire. Dr Mariko avait déjà été arrêté pour propos injurieux contre le premier ministre Choguel Kokala Maïga le 6 décembre 2021. Il est sous liberté provisoire depuis le 4 janvier dernier. D'autres personnalités publiques sont en prison depuis quelques mois. Parmi elles, l'ancien ministre de l'économie et des finances, Madame Boire Fili Sissoko, derrière les barreaux depuis août 2021. Comme feu Soumelou Boubey Maïga, Madame Boire est citée dans l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Ils sont inculpés de faux et usage de faux, de trafic d'influence et de favoritisme. Tcherno Oumar Has Diallo aussi est en prison. Il aurait été inculpé suite à des dossiers de détournement sur l'opération des recettes et des dépenses liées au pèlerinage à la Mecque. Il y a aussi Dr Étienne Fakaba Sissoko. L'économiste-chercheur est poursuivi notamment pour des propos tendant à la stigmatisation ou à la discrimination régionaliste, ethnique ou religieuse.
Selon Amadou Tchéoulindjara, des textes accordent la pleine liberté d'expression, mais cela à condition de respecter la dignité d'autrui. Selon lui, il faut aussi savoir respecter les limites de cette loi. Maître Amadou Tchéoulindjara, avocat chargé de cours à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, est joint par Mariam Koulibaly.
Du respect de la dignité d'autrui, ça c'est la première limite. La deuxième limite maintenant, c'est que la liberté d'expression doit être soumise en fait aux législations qui concernent, si vous voulez, la sûreté intérieure et la sûreté extérieure de l'État. Les gens ont la possibilité de dire tout ce qu'ils veulent, mais à condition que ce que les gens disent, à travers les radios privées, à travers la télévision nationale, que ce ne soit pas des propos qui diffament ou des propos, en fait, qui touchent à la sûreté intérieure. Alors, moi, je pense que seule la justice doit apprécier. Parce que les propos, quand nous les connaissons, nous devons savoir les avancer aussi.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les pompiers s'entament ce mercredi 6 avril 2022, une grève de 72 heures. Elle fait suite à l'échec de l'application de la convention entre les pompistes des stations de la multinationale et leurs employeurs. Cet arrêt de travail concerne entre autres les pompistes de Total Energy, Vivo Energy, Ola Energy et Oryx Energy. Selon les responsables du syndicat, la négociation a échoué par manque de volonté des multinationales employeurs. Ils affirment une grève illimitée si leurs conditions ne sont pas prises en charge. Sayon Keïta, secrétaire général de la station Total Energy, est joint au téléphone par l'Alaïcha Wallet Infa.
Hier, le gouvernement nous a appelé pour essayer d'avoir un accord de conciliation, mais à notre grande surprise, la négociation a échoué. Et on nous demande que l'application de la Convention collective des entreprises pétrolières est le strict respect du Code du travail. L'augmentation que l'INTM a eue lors de ses grèves en 2014, 2019 et 2021, alors que dans ces différentes entreprises à la direction, la transposition est appliquée là-bas à 100%. Le deuxième point aussi, la régularisation de tous les travailleurs pour les sociétés mères. en violation aussi de l'article L313 du Code du travail. Mais nous, on peut faire jusqu'à 20 ans de sous-traitance sans être recruté par la société mère. C'est une grève de 72 heures reconductible. Au-delà de ces 72 heures, s'il n'y a pas eu satisfaction de nos doléances, ça sera illimité.
Autre sujet, 27 millions de personnes souffrent de faim dans la zone nord de l'Afrique de l'Ouest. La région est frappée par sa pire crise alimentaire depuis une décennie. C'est ce qui ressort dans un rapport d'Oxfam publié ce mardi 5 avril 2022. Le document souligne que 11 millions de personnes supplémentaires pourraient être poussées à la faim au cours des 3 prochains mois. Les zones concernées sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Nigeria. Imirana Kilomaika.
Selon ce document d'Oxfam, entre 2015 et 2022, le nombre de personnes ayant besoin d'une aide alimentaire d'urgence a presque quadruplé, passant de 7 à 27 millions. L'organisation ajoute en outre que ce nombre pourrait atteindre 38 millions en juin, soit une augmentation de plus d'un tiers par rapport à l'année dernière. Le directeur régional d'Oxfam pour l'Afrique de l'Ouest, Assalama Sadawak Sidi, explique que la production céréalière dans certaines régions du Sahel a chuté d'environ un tiers par rapport à l'année dernière. Toutefois, il indique que la sécheresse, les inondations, les conflits et les impacts économiques de la COVID-19 ont forcé des millions de personnes à quitter leurs terres, les poussant au bord du gouffre. Cette situation oblige des centaines de milliers de personnes à se déplacer dans différentes communautés et à vivre dans des familles d'accueil qui vivent déjà dans des conditions difficiles, explique-t-on dans le document. Oxfam affirme qu'il n'y a pas assez de nourriture, encore moins suffisamment pour les enfants, alors que la malnutrition ne cesse d'augmenter au Sahel.
Je vous l'annonçais dans les titres. Depuis le début du Ramadan, de nombreux établissements scolaires publics et privés ont réaménagé les heures de cours. Cette réorganisation du temps, selon les autorités scolaires, vise à mettre les apprenants et les enseignants dans des conditions meilleures de travail face au Ramadan et à la période de chaleur. Notre reporter Fatih Yattara a fait un tour en ville.
Nous sommes à l'école privée Mamadou Sissoko en commune 3 de Bamako. Il est 13h passé. À la différence des jours ordinaires, ce mardi, les élèves sont encore dans les classes en train de suivre le cours. Plus de descente à midi. Nous continuons avec le programme jusque dans l'après-midi pour ne reprendre que le lendemain, explique Mohamed Ba, le directeur de l'école privée Mamadou Sissoko.
De la première année à la 6e, donc ça c'est à 13h15. De la 7e à la 9e, ça c'est 14h. Avec la chaleur, on ne peut pas travailler les soirs. On est obligé de continuer pour descendre à cette heure-là pour que les enfants puissent bien travailler. Surtout avec les dames, eux qui préparent les trucs de la rupture.
Toutes les écoles n'ont cependant pas opéré cette modification par rapport aux heures de travail. C'est le cas de l'école Alfred Garçon à Medinakoura, en commune D de Bamako, où le programme demeure inchangé. Youssouf Touré est le censeur de l'établissement.
Nous avons des problèmes de classe, de telle manière que l'emploi du temps n'a pas changé. Chaque professeur maintient son œuvre. Rien n'est ajusté par rapport à ça. Du matin jusqu'au soir, on ne peut pas changer. Ils vont continuer jusqu'à 18h.
Ce réaménagement du temps par rapport au Ramadan ne concerne pas que les établissements scolaires. Il est aussi constaté dans plusieurs autres structures publiques et institutionnelles.
Un reportage signé Fatih Yattara. La haute autorité de la communication HAC demande aux radios et télévisions membres de l'URTEL de présenter le contenu de leur programme durant ce mois de Ramadan. La demande a été formulée cette semaine. Selon le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, cette présentation faite par la HAC est une première mais s'inscrit dans les normes. Banyougou Donté, président de l'URTEL, est joint par Adama Amadou Aïdara.
La correspondance qui nous a été envoyée et nous demandant de dire à nos radios membres d'envoyer leur grille actualisée s'inscrit carrément dans le cadre du respect de la grille des programmes. Parce qu'il est dit que même s'il y a des modifications qui sont apportées dans la grille des programmes, cette modification doit être notifiée à l'instance de régulation. Bon, je pense que pendant le mois de carême, beaucoup de radios élaborent des grilles en tenant compte de la réalité du carême qui est un moment particulier chez nous. Et c'est cet avis-là que nous avons fait conformément à la lettre que nous avons reçue. Je peux vous l'envoyer à l'adresse email de URTEL, URTEL, URTEL en minuscule, et entre les deux, URTEL, il y a tiré des 8, @yahoo.fr, ou au numéro de la secrétaire de l'URTEL, numéro WhatsApp qui est sur le communiqué.
Direction Tombouctou, où chaque année, pendant la période de chaleur, les structures de santé sont prises d'assaut par les malades. Ceux-ci sont pour la plupart des enfants et des personnes âgées incapables de supporter les fortes températures. Ces patients souffrent en général d'hypertension et de déshydratation. Un reportage de notre correspondante à Tombouctou, Maïmouna Mourou.
À plus de 43 degrés Celsius dans la ville de Tombouctou, les vieilles personnes et les enfants sont les plus vulnérables à cette forte chaleur. À l'hôpital régional de Tombouctou, on rencontre un grand nombre de ces patients. Kadiatou Diara, accompagnatrice, nous dit de quoi souffrent son malade.
Elle a une insuffisance cardiaque. Il y avait trop de monde dans l'hôpital. Tout le monde souffrait de maladies différentes. Je pense que c'est dû à la chaleur. On a eu des conseils du médecin disant de rester dans la maison, de ne pas se confronter au vent.
Une des conséquences de la forte chaleur est la déshydratation, notamment pour les enfants. Docteur Telfi Meiga, médecin traitant à la pédiatrie de l'hôpital régional de Tombouctou, donne des conseils.
Que ce soit chez un enfant ou un adulte, une fois qu'on est sous le soleil déjà avec la chaleur, tout ça, donc on a tendance à avoir des pertes. C'est pourquoi je conseille en période de chaleur de beaucoup boire. Parce que plus les pertes sont là, plus on boit, on compense aux pertes. Mais lorsqu'on ne boit pas, on ne compense pas ce qu'on perd. Cela, à la longue, peut amener aussi une déshydratation. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est l'eau qu'on perd. Une fois qu'on perd de l'eau, c'est pas bon. L'eau, c'est un élément extrêmement important pour tout un chacun.
En plus de la chaleur, les populations sont aussi inquiets des délestages qui deviennent récurrents chaque année à la même période. Une situation qui pourrait fragiliser davantage ces couches vulnérables. De Tombouctou, Maïmouna Mourou pour Sidio Tamani.
Ici à Bamako, la première édition de la foire Ramadan se poursuit au Centre international des conférences de Bamako. Elle est organisée par l'agence Influence Salle. Selon ses organisateurs, elle vise à rendre accessible les denrées de première nécessité à un prix abordable aux Bamakois pendant cette période de Ramadan. Cette foire qui a débuté le 1er prendra fin le 14 avril prochain. Khalfa Goïta s'est rendu sur le site.
Halal en arabe signifie tout ce qui est authentique en islam, affirme le coordinateur de cette foire, Cheikh Oumar Traoré. L'initiative, selon lui, se veut d'accompagner la communauté musulmane à leur manière, mais aussi une école dans ce mois de Ramadan.
L'objectif principal même, c'est de rassembler tous les produits et services que les gens auront besoin pendant le mois de Ramadan dans un seul endroit et à des prix vraiment raisonnables. Je suis hyper content, vu que c'est la première édition, il y aura des jours où 100 ou 200 personnes de différentes entreprises vont venir refaire leur retour ici. Nous avons aussi des ateliers de formation sur les hijabs, sur les turbans, les aînés.
Au moins une quarantaine de stands de différents formats sont installés à l'entrée du CICB. Des exposants profitent et d'autres attendent toujours d'en tirer profit. Cependant, ils souhaitent que la foire soit pérennisée.
On vend tout, on vend du poulet, des pigeons, du plakali, du foutou, du riz, de la salade, puis on fait les petits fours aussi. Bon, le marché, ça va.
Quand on dit qu'il y a foire, les gens vont avoir peur de venir. Ils vont dire que c'est cher. C'est à cause de ça, les marchés sont un peu lents. Je veux que ça continue.
Des visiteurs rencontrés sur cette foire se réjouissent de l'idée de la foire. C'est pourquoi certains disent ne pas regretter d'avoir fait un tour sur le lieu.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour dans les régions à Badjangara. La route nationale 15 sera fermée à partir du jeudi 7 avril 2022 à part les véhicules des forces armées maliennes, des ambulances et la MINUSMA en coordination avec les FAMA. Aucun véhicule n'est permis d'emprunter le tronçon à compter de ce jour. La décision a été prise par le gouverneur de la région de Badjangara. Elle fait suite, selon le communiqué, à la dégradation de la sécurité sur cette route ces derniers temps avec des attaques incessantes. La dernière en date est l'embuscade tendue aux forces de défense et de sécurité qui a fait 8 morts la semaine dernière. La campagne d'égrenage du coton 2021-2022 tire vers sa fin dans la filière nord-est de la CMDT de Koudjala. Selon des travailleurs temporaires de la filiale, 5 des 6 usines, 4 à Koudjala et celle de Kemprana, cercle de sang, sont à l'arrêt depuis le vendredi dernier. Seule l'unité de Karangana dans le cercle de Yoroso tourne pour égrener le reste du coton. L'arrêt de ces usines est synonyme de cessation de travail chez plusieurs dizaines de travailleurs saisonniers. La campagne avait débuté en novembre 2021. Un projet de consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier vient d'être lancé le 1er avril dernier à Saint. L'objectif est de contribuer à la consolidation de la paix dans les cercles de Tomignan, Blas et Saint. Ce projet est destiné aux jeunes des trois cercles. Selon les responsables, ces derniers s'engageront pour la promotion des droits, la sécurité et l'autonomisation l'action des jeunes femmes et hommes pour un meilleur accès à la terre, aux services d'investissement et de conseils agricoles. Il est financé par Helvetas Swiss Intercorporation pour une durée de 18 mois. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.sujetamani.org ou en appelant gratuitement par VMO au 37 321. Restez à notre écoute. Dans quelques minutes, ce sera la version Bambara de cette édition, une présentation de Aïssata Diarra. Mais avant tout de suite, la question A. Plus de 312 000 volailles ont péri ou ont été disséminées par mesure de précaution dans la zone périurbaine de Kati. C'est dû à la grippe aviaire qui sévit dans des exploitations avicoles. Ces informations ont été données par le laboratoire central vétérinaire de Kati. Les fermes avicoles contaminées se trouvent dans les localités de Diago, Djedougou, Torodo et Fanafiyokoro. Docteur Boubacar Kanouté, directeur national adjoint des services vétérinaires, répond aux questions de Khalifa Guita.
Pour cet événement sanitaire qui concerne la zone de Kati, qui ont fait l'objet de grandes mortalités, nous avons saisi notre direction régionale des services vétérinaires de Koulikoro, qui de concert avec le secteur vétérinaire de Kati, nous sommes rendus sur les lieux. Nous avons fait le constat de la mortalité et pris les précautions, notamment l'abattage sanitaire du reste du cheptel, l'incinération et l'enfouissement des cadavres, le nettoyage systématique des poulaillers, suivi de leur désinfection. Et la mesure réglementaire en vigueur voudrait bien que ces exploitations ne peuvent introduire d'autres sujets que dans un délai de 2 mois. Il aura été signifié que pour la reprise des activités, il faudrait attendre 60 jours.
Alors, quels sont donc les risques liés à cette maladie ?
Autant les animaux peuvent faire la maladie, autant les hommes peuvent faire la maladie. Au niveau du monde animal, surtout au niveau de la volaille, le taux de mortalité est de 90 à 100% de la volaille. Elle peut causer la mort des humains. C'est pourquoi il est strictement interdit à la population de toucher à des oiseaux morts dont on ne sait pas la cause et surtout à vouloir les manger. Nous invitons tout le monde à éviter cela et à nous signaler tout cas de mortalité massive au niveau des exploitations agricoles.
Vous dites que des mesures sont prises face à cette aventure. Pensez-vous qu'elles sont suffisantes pour contenir la maladie?
Nous ne sommes pas à notre premier coup d'essai. Je crois que l'année dernière, malheureusement, pour la première fois, à la même période, nous avons connu une épizootie de grippe aviaire. Nous avons pu contenir, parce que la maladie elle est très foudroyante. N'eût été notre promptitude, notre proactivité, beaucoup d'exploitations allaient être touchées. La population allait ressentir cela au niveau des produits avicoles, notamment la disponibilité des œufs et les coûts par rapport à la volaille. Nous pouvons rassurer la population que la situation est carrément sous contrôle, mais n'empêche, les services continuent les investigations dans la zone et au-delà de la zone pour voir si d'autres exploitations n'ont pas été touchées.
Quel appel avez-vous pour la population?
Vous savez, l'aviculture est une activité rentable. Tous ceux qui ont un peu de moyens s'installent. Et ces installations de ces exploitations avicoles se font généralement à l'insu des services vétérinaires. Ça nous pose d'énormes problèmes de suivi. Donc, nous invitons tous ceux qui voudraient rentrer dans cette activité, qu'ils se munissent au préalable de toutes les informations nécessaires par rapport à l'exploitation avicole. Et à la population, c'est de leur donner l'assurance que la volaille qui se trouve sur le marché ne représente aucun danger pour la population, car les dispositions ont été déjà prises en amont.